Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut tout le monde, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast, ce qu'il ne fallait pas manquer, en Hongrie en 2016, vous l'aurez bien entendu deviné. Alors, aujourd'hui, j'en suis navré, mais je n'ai pas trouvé de petite transition, on va dire, un peu cliché, relative à la Hongrie. D'habitude, j'en trouve toujours, hein, relative au pays, hein. Souvenez-vous, Monaco, je crois que j'avais trouvé des bruits de pièces ou un truc comme ça. Etc. J'ai à chaque fois trouvé quelque chose. En Autriche, j'ai trouvé de la musique, on va dire, un peu folklorique. Et là, pour la Hongrie, non, je n'ai rien trouvé relatif à Budapest ou au pays en lui-même. Bon, si vous avez des idées pour la saison prochaine, n'hésitez pas à me les envoyer. Alors, il faut que ce soit un son libre de droit, évidemment. Ça m'arrange. Ou éventuellement... plutôt libre de droit. Ouais. Libre de droit, ça m'arrange complètement. Sous Creative Commons, peut-être aussi, ça dépend. Ça dépend de la licence, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées, à me les envoyer sur les réseaux sociaux, donc hein, sur @F1Analyse pour le Twitter d'Analyse F1 et sur la page Facebook d'Analyse F1. Ben, vous tapez Analyse F1 et vous devriez trouver, hein, tout simplement. Et également sur PodCloud, hein, sur podcloud.fr, où vous pouvez retrouver Analyse F1 et bien d'autres podcasts également. Si vous avez d'autres passions que la F1, vous pourrez, je pense, trouver facilement votre bonheur parmi le large catalogue que propose ce très bon site, hein, qui est PodCloud, évidemment. Et je salue Feel Good et Puff Magic Fingers, hein, de Podchose qui font du très bon boulot au sein de l'association Podchose, que ce soit pour Pod Radio, Pod Cloud ou d'autres choses. Encore bravo et merci à eux, évidemment. Sinon, je pense pas que ce serait possible qu'il y ait Analyse F1. En tout cas, pas sous ce format, hein, qui est selon moi le meilleur format que je peux vous proposer. Malheureusement, je ne l'exploite pas à son maximum, mais ça, c'est par manque de possibilités, manque de temps, surtout manque de temps. Hein. Ça, c'est là, vous voyez bien, pour un podcast comme le « Ce qu'il ne fallait pas manquer » sur un Grand Prix qui date de la semaine dernière, je suis obligé de vous le proposer. Là, c'est juste avant le Grand Prix d'Hockenheim, le Grand Prix d'Allemagne. Donc, c'est pas top. J'en suis le premier désolé. Je suis le premier à être gêné de ça, mais je n'ai pas tellement le choix, malheureusement, même si j'essaye de trouver du temps ici et là. Mais commençons tout de suite par parler du Grand Prix de Hongrie qui nous a offert quand même quelques trucs intéressants à voir. Le patron est de retour en tête du championnat du monde des pilotes. Eh bien, j'ai bien entendu nommé Lewis Hamilton. Pendant toute la saison, Nico Rosberg a mené ce championnat. Et là, un peu avant la trêve estivale, Hamilton passe devant Rosberg. C'est le meilleur moment qui a été choisi par le pilote britannique. En remportant ce Grand Prix de Hongrie, qui est sa troisième victoire d'affilée, sa cinquième en six courses, ça commence à parler. Et en plus, il rentre dans l'histoire du Grand Prix de Hongrie en étant le seul à avoir gagné cinq fois à Budapest, ce qui est assez fort. Donc voilà, un grand coup de marteau, le Hammer Time, comme disent les fans du pilote britannique. Il est là. Le chemin est encore long. Certes, pour Hamilton, ça c'est clair, pour Rosberg aussi, mais le pilote allemand qu'il a comme coéquipier, Rosberg, donc, a reçu un sacré coup au moral, je pense, même s'il le nie, mais ça fait mal quand même d'avoir plus de 40 points d'avance et de se faire remonter. Alors, soit Rosberg, dans sa communication, est sincère, ce que je ne crois pas, quand il dit qu'il s'en fout du championnat et que pour lui, c'est les courses prises séparément qui comptent. Donc seulement les victoires, non. Le championnat compte énormément, c'est juste qu'il essaye de s'éloigner de tout ça pour ne pas avoir la pression. Mais du coup, ça fait mal. Parce que s'il était vraiment sincère dans sa communication, ce serait encore plus débile. Ce serait vraiment débile, ça voudrait dire qu'il s'en fout du championnat. Non, un pilote ne s'en fout pas du championnat, je peux vous le dire. Ça, c'est clair. Alors, cette course, eh bien, c'était pas gagné pour Hamilton, puisque Rosberg avait signé une belle pole. une belle, enfin, avait signé une pole position. On va pas revenir sur tout le débat du double drapeau jaune. Il était en pole, en tout cas, Rosberg, et Hamilton a réussi à le passer au premier virage, hein. Tout simplement, c'était le plus important, comme le Grand Prix de Hongrie est un Grand Prix où on peut pas trop passer, pas trop dépasser, d'autant plus quand on est dans une Mercedes et qu'on a du mal à suivre une monoplace qui nous précède. Donc ouais, du coup Hamilton est passé, Ricciardo était aussi passé, mais Rosberg, heureusement pour lui, a rapidement repassé Ricciardo. Et ensuite, Rosberg a tenté de rester assez proche de Hamilton, pas trop proche non plus, mais il n'a jamais pu remonter assez proche pour être dans la seconde du DRS. Enfin, quand il l'a été, Hamilton a su remettre le rythme. Hamilton a contrôlé la course de bout en bout, tout simplement. Il n'y avait qu'un écart de 2 secondes, donc on peut se dire que les deux poussaient, mais en fait, non, Hamilton, on le voyait bien, il ne laissait pas revenir Rosberg, il n'y avait aucun moyen pour Rosberg de vraiment remonter sans devoir taper véritablement dans sa gomme, et même Hamilton avait de la marge en termes de rythme, et voilà. Et il en a profité un peu, Hamilton, pour, comment dire, ben pour aller à un rythme qui lui permette d'être confiant dans ses pneus et de ne pas subir une pression de dégradation des pneus qui viendrait. Du coup, des fois, il était, on va dire, un peu lent, et du coup, ça remontait derrière Rosberg. Mercedes n'était pas très content de cette situation et a urgé Hamilton d'accélérer. Hamilton qui disait, ben, je fais ce que je peux, parce que, et d'ailleurs, à la fin de la course, il a révélé un peu pourquoi il a fait ça, tout simplement parce que, certes, c'était un petit jeu avec Rosberg, il l'a pas dit, mais c'est sous-entendu qu'il a joué avec Rosberg, mais quelque part, il s'en foutait de celui qui était derrière. Lui, ce qui comptait pour lui, c'était de remporter la course. Et pour arriver à ses fins, tout simplement, il a préservé sa gomme. Il a préservé sa gomme pour être sûr de pas avoir de soucis avec. Et du coup, voilà, il a visé large au niveau des temps autour, on va dire ça. Et bon, ben, ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire une victoire d'Hamilton, finalement, relativement aisée. Et malheureusement, Rosberg n'a pas osé taper dans sa gomme. Ça, c'est ce que je reproche à Rosberg. C'est que il reste trop passif et il se dit oui, mais si je fais ça, je vais abîmer ma gomme, donc je risque en plus de perdre ma deuxième place. Certes, mais à un moment, il faut aller chercher la première. Si tu veux le championnat, si tu veux même une victoire en course, il faut aller chercher Hamilton. Quitte à taper vraiment dans les pneus, mais fixe-toi un objectif, tape dans les pneus pendant X tours. Et voilà, si t'arrives pas à passer Hamilton, bah tant pis, t'auras raté. Mais si t'arrives à être dans le DRS, ben tu auras sûrement une occasion de tenter une attaque sur Hamilton et de rester proche de lui. Et en plus de lui faire taper dans sa gomme également. Et ça, c'est ce que je reproche à Rosberg, ce que je reprochais au pilote allemand en 2014 déjà, ce qu'il ne faisait pas. Et ça risque de lui porter préjudice dans cette lutte, hein, même si il est encore largement dans le coup. D'autant plus que pour Hamilton, c'est loin d'être la voie royale, même si il a l'avantage du momentum, comme on dit en Angleterre, c'est-à-dire il a, on va dire, il a le feeling avec lui, il a, c'est lui qui a le, qui porte les plus gros coups en ce moment, qui remonte, qui est remonté, qui est passé. Donc c'est lui qui a l'avantage psychologique sur son coéquipier, mais il faut pas oublier que Hamilton connaît un problème de quota moteur, parce qu'il a connu plusieurs soucis de fiabilité en début de saison. Rosberg en a connu quelques-uns récemment, mais qui ne sont pas relatifs au moteur. Du coup, ben Hamilton a toujours un désavantage là-dessus, puisque il sera obligé de partir dernier sur un voire deux grands prix, hein, sur un grand prix sûr, et il voudrait que ce soit Monza, sûrement Hamilton, hein, un grand prix où on peut vraiment dépasser plus facilement et remonter plus facilement. Mais voilà, il va devoir écoper de cette pénalité, sûrement du coup perdre un grand prix sur Rosberg là-dessus, et voire deux, donc c'est pas gagné pour Hamilton, c'est pas gagné loin de là. Rosberg reste quand même un très bon pilote, hein, qui est capable de se hisser tout en haut assez aisément si Hamilton n'est pas là. On l'a vu en début de saison, avec 4 victoires en 4 grands prix. Donc c'est à suivre, la lutte est encore en cours. Et il y en a eu une autre de lutte pendant le Grand Prix entre le jeune Verstappen et le pilote finlandais Kimi Räikkönen encore, hein, on avait vu cette lutte déjà au Grand Prix d'Espagne avec une belle défense de Verstappen, mais là, la défense du pilote néerlandais qui a terminé cinquième juste devant Räikkönen, a été un peu trop rude, on va dire, et a rendu un Iceman qui était plus de glace. On va dire qu'il était chaud cette fois-ci. Il a fait fondre la glace, Verstappen, et ben, c'était pas très beau à voir parce que, bon, pendant une semaine, la semaine dernière, ou je sais plus quand, j'avais fait un peu l'éloge de Verstappen qui avait fait une très belle course, et même depuis qu'il est chez Red Bull, on peut plutôt faire son éloge. Mais il y a un élément qui reste là et qui l'empêche d'atteindre, on va dire, des sommets à Verstappen, c'est son irrégularité. Son irrégularité, ses erreurs, et le fait qu'il ne reconnaisse pas ses erreurs. Donc, et ça, j'en parle depuis qu'il est chez Toro Rosso, depuis le début de sa carrière quasiment. Et ça n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courbe de progression à ce niveau-là. On la connaît, sa pointe de vitesse. Et on connaît aussi ses fâcheuses tendances à être assez dangereux dans ses défenses, quoi. Mais ça, c'est assez triste. Parce que voilà, très clairement, si vous avez vu le Grand Prix de Hongrie, si vous ne l'avez pas vu, revoyez, on va dire, les défenses de Verstappen sur Raikkonen. Il y en a eu deux ou trois d'ailleurs qui étaient pas qu'on aimerait pas, qu'on veut pas voir en F1 du tout. Mais voilà, quiconque connaît la course un minimum, quand vous aurez vu ça, sait que ce qu'a fait Verstappen, c'est mal, tout simplement. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je vois des débats ici et là, mais non, Verstappen, c'est rude, mais c'est viril, mais correct, etc. Non, non, il y en a qui le comparent aux défenses dont faisait preuve Senna et Schumacher. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Là, le gars, se décale après le point de freinage. Et en plus, se décale deux fois pour défendre. Donc il fait les deux trucs. Alors, certes, la direction de course, Charlie Whiting, a dit, oh, se décaler après le point de freinage, c'est pas marqué dans le règlement que c'est interdit. Oui, mais éthiquement, dans l'éthique du pilotage, tout le monde sait que ça se fait pas, ça se fait pas, personne ne le fait, parce que c'est dangereux, parce que voilà, c'est contre le sens de la course. Et en plus, se décaler deux fois, ça par contre c'est interdit. La direction de course a estimé, après avoir revu les images, qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir même une investigation. C'est ça qui est fort. Il n'y a même pas d'investigation. Mais pourtant, on a dit que la direction de course a vu qu'il n'y avait qu'un décalage. Qu'il n'y avait pas plus d'un décalage dans la défense. C'est bien les seuls à avoir vu ça, hein. Tous les pilotes ont vu le contraire. Tous ceux qui ont un œil averti, et je pense en faire partie, ont vu le contraire. Donc je pense vraiment que c'est assez triste parce que ça prouve ce que je disais depuis déjà longtemps, c'est-à-dire que Verstappen, c'est un peu l'enfant gâté de la F1. C'est l'enfant gâté de la F1, on lui autorise tout, on ne lui interdit rien. Et j'ai du coup déjà, premièrement, j'ai toujours cette crainte qu'on ne voit jamais le plein potentiel de Verstappen, à force de le laisser justement faire à sa mode. Et du coup, ben, il n'apprend pas, puisque Verstappen, encore aujourd'hui, en marge du week-end du Grand Prix d'Hockenheim, malgré les critiques et tout, a dit que il s'en foutait, que il défendrait toujours pareil. Et deuxièmement, alors certes, deuxièmement, ben, si je dis n'importe quoi, en fait, ça changera. Ça changera. Il y aura du changement un jour chez Verstappen. Mais ce jour-là, et j'espère qu'il n'arrivera vraiment jamais ce jour, c'est qu'il y aura un gros accident. Et là, on sera obligé d'être plus clair avec lui et de se dire, ah ouais, non, en fait, l'enfant gâté de la F1, on lui a autorisé des trucs, mais il ne l'a pas respecté ce qu'on lui a autorisé de faire. Et voilà, j'ai peur qu'il y ait ça un jour. J'ai vraiment très très peur. Et faut pas laisser un pilote faire ça, parce qu'en plus, en laissant un pilote faire ça, il y en a d'autres qui vont prendre exemple. Forcément, les autres pilotes vont se dire, bon, ben, si lui fait ça, c'est-à-dire que nous, on peut le faire, bon, on va le faire. Les jeunes pilotes là qui regardent les courses de F1, ils vont commencer à le faire dans les catégories inférieures. Alors certes, dans les catégories inférieures, ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact parce que les monoplaces sont moins rapides. Bon, en GP2, ça a de l'impact, hein, mais je veux dire, par exemple en karting ou autre, ça a peut-être moins d'impact, mais ça reste quand même pas à faire normalement. Mais en Formule 1, quand on déboule à 300 et qu'au freinage on est à 250, on décélère comme ça et que le pilote derrière est bien plus rapide que soi. Qu'est-ce que ça fait si jamais le pilote derrière n'a pas le réflexe de voir un deuxième décalage ou quoi, ou un décalage en freinage? Ben, il y a un accident. Et ça peut arriver à des endroits où ça peut être risqué, hein, tout simplement. Donc, pour moi, c'est très dangereux et c'est n'importe quoi de le laisser faire comme ça, hein, tout simplement. Et il y a pas mal de pilotes qui sont de mon avis également. Alors heureusement, là, sur le Grand Prix de Hongrie, ça n'a eu qu'un petit, une petite conséquence, c'est-à-dire que Kimi Raikkonen n'a eu qu'un petit bout d'aileron avant endommagé, ça a affecté que très peu l'aérodynamisme de sa monoplace, et il a pu mettre la pression sur Verstappen jusqu'au bout, même si Verstappen a terminé devant. Mais voilà, il y a eu un briefing des pilotes, là, juste avant le Grand Prix d'Hockenheim, les pilotes d'expérience, tous, les pilotes, tous les pilotes d'expérience qui se sont exprimés dans les médias là-dessus d'ailleurs, ont exprimé leur inquiétude lors de ce briefing et leur critique vis-à-vis de, certes, cette défense de Verstappen, mais ils n'ont pas cité que celle-ci. Ils ont dit que ça fait plusieurs fois hein, que Verstappen a fait ça. Hein, ils ont urgé la FIA d'être plus claire là-dessus. La FIA qui a répondu ben, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que non, on n'a pas vu. La direction de course a vu que ça se décalait qu'une fois. Donc, gros foutage de gueule. Et ben, j'espère que ça changera avant qu'il y ait un accident, parce que s'il faut attendre à chaque fois un accident pour que les instances de la F1 prennent leurs responsabilités, c'est assez triste et surtout ça risque de ruiner la carrière d'un jeune pilote très prometteur, en l'occurrence Max Verstappen. Pour rester sur le thème de pilotes qui font n'importe quoi, je vais parler de ce phénomène qui donc date déjà d'il y a... commence à dater d'il y a quelques années, hein, ce phénomène. Les pilotes retardataires qui sont de moins en moins enclins à ne pas interférer dans la course des leaders. C'est-à-dire à faire leur boulot et c'est-à-dire à respecter les drapeaux bleus. Il y a un drapeau bleu, normalement tu t'exécutes, tu ralentis dès que tu peux et tu laisses passer les leaders. Même si tu es en train de faire ta course, eh ben, il faut que ce soit fait intelligemment, mais il faut que ce soit fait. Et malheureusement, c'est l'exemple d'Esteban Gutiérrez lors du Grand Prix de Hongrie, qui faisait une belle course en plus et qui en a fait une puisqu'il a terminé, je crois, devant son coéquipier, en tout cas en piste. Et du coup, il faisait plutôt une belle course, même si la Haas n'était pas en mesure d'accrocher des points ce week-end-là. Mais là, il s'est montré, Esteban Gutiérrez, sous son mauvais jour. Encore une fois, j'ai envie de dire, ça montre que ce pilote n'a pas tellement évolué depuis qu'il était chez Sauber avant, hein, tout simplement. Il a choisi Esteban Gutiérrez de ne pas laisser passer Lewis Hamilton pendant plus d'un demi-tour. Facile, hein, facile plus d'un demi-tour. Hein. Et il y avait beaucoup d'endroits où il pouvait le faire en plus. Hein. Il y avait des petites lignes droites, etc. Non, il pouvait vraiment le faire un peu partout. Et il l'a bloqué. Et du coup, ben c'est assez scandaleux. Parce que ne pas respecter les drapeaux bleus, là, ce qu'il a fait, Gutiérrez, c'est à la limite du drapeau noir, selon moi. Certes, il y a pénalité, mais selon moi, c'est à la limite du drapeau noir parce que il respecte pas une règle élémentaire, quoi. Et en plus, il était tout seul, hein. Il était isolé, Gutiérrez. Il n'y avait pas d'intérêt à bloquer le leader, quoi. Et, vraiment pas, hein. Il perdait rien à laisser passer plus tôt. Et du coup, Rosberg est revenu à moins d'une seconde d'Hamilton grâce à ce blocage intempestif et honteux. Alors qu'il était à peu près à 2 secondes hein, d'Hamilton, voire un peu plus de 2 secondes. Donc, ça aurait pu être très grave, puisque Rosberg aurait pu tenter une attaque sur Hamilton d'ailleurs, mais il n'en a pas été capable, car Hamilton, comme je l'ai dit, il contrôlait la course, il contrôlait son rythme, il a pu facilement remonter l'écart à plus de 2 secondes. C'était impressionnant de voir une telle domination, et surtout une telle domination. Avec seulement 2 secondes d'écart, c'est-à-dire gérer sa course juste avec 2 secondes et pas 8-9 secondes, c'est fort, ça montre que vraiment que Hamilton était supérieur à Rosberg. Et là, ça fout d'autant plus un coup au moral à Rosberg parce que quand tu vois ton coéquipier qui est juste devant et qu'il joue un peu avec son rythme et avec le tien et que toi t'y arrives pas, c'est assez frustrant. Alors la réaction d'Hamilton n'a pas été top, hein, vraiment pas, puisque lorsqu'il a pu doubler Gutiérrez dans la ligne droite de départ arrivée, il s'est fendu d'un petit doigt d'honneur à l'encontre du pilote mexicain, comme ça, de manière totalement gratuite. Enfin, pas tellement gratuite vu ce qu'avait fait Gutiérrez. Mais voilà, enfin, ça reste compréhensible. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit Gutiérrez, quelque part, il l'a cherché, hein, il l'a vraiment cherché. Parce que Hamilton, sa réaction, on ne la conseille pas, évidemment, on ne la recommande pas. Ça se fait pas, c'est pas très respectueux. Mais il faut se dire qu'il est leader. Un leader qui gérait bien sa course, qui a l'adrénaline toujours. Et là, il y a un idiot devant lui qui ne respecte pas les drapeaux bleus. Donc forcément, la pression monte, le cœur bat plus fort. Derrière lui, il voit dans ses rétros un pilote qu'il maîtrisait, dont il maîtrisait parfaitement l'écart qui revient sur lui. Ça pourrait être un retournement de situation incroyable, un gros retournement de situation. Et du coup, voilà, il y a tout qui monte, l'adrénaline, la pression. Hamilton qui commence à être impatient dans sa monoplace, évidemment, parce qu'il y a un truc imprévu qui arrive là. Et voilà, ce qui devait arriver arriva, et du coup, Hamilton, sur le coup, eh ben, il respecte pas trop Gutiérrez. Mais Gutiérrez qui lui a manqué de respect également en ne le laissant pas passer, même si c'est pas l'avis de Gutiérrez, qui selon lui, n'a pas trop bloqué Hamilton. Chez Haas, on défend son pilote également, de manière un peu ridicule. Mais voilà, les faits sont là, et Gutiérrez a été pénalisé d'ailleurs, hein, je crois, d'un drive-through, je crois, hein, pour ça. Donc c'est assez triste d'en arriver là. Je ne sais pas pourquoi Gutiérrez a fait ça. Il n'a pas vu les drapeaux bleus, je ne comprends pas. Ils étaient assez visibles. Donc bon. Voilà, il y en a beaucoup, ça c'est qu'un exemple, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a quand même de plus en plus de réticence de la part des retardataires à faire leur boulot rapidement, en laissant passer les leaders. C'est assez triste. D'ailleurs, bon ben. On va citer Sébastien Vettel qui, pendant le Grand Prix de Hongrie également, a été gêné par les retardataires avec ses innombrables blue flags entonnés dans sa radio. Et voilà, c'est sa phrase préférée, je crois, à Vettel. Même s'il a dit, voilà, après la course, Vettel a été sincère. Il a dit, bon, ben, pendant la course, avec l'adrénaline et tout, on a toujours l'impression qu'on est celui qui perd le plus de temps derrière les retardataires, mais voilà, je leur en veux pas. Ils font de leur mieux, voilà. Tout simplement. Après coup, il a dit ça. Même Hamilton, après coup, il s'en foutait. Il avait gagné la course, donc il n'a pas épilogué là-dessus. Il a rien dit là-dessus, quoi. Donc voilà. C'est déjà oublié pour ces pilotes. Hein. Après coup, ils sont des pilotes d'expérience et qui savent réfléchir à deux fois pour parler après. Restons toujours sur le même thème et parlons d'un autre pilote qui faisait une très belle course, voire sa plus belle course de la saison, et un très bon week-end de course également, puisqu'en qualif il s'était également illustré, et qui allait marquer son premier point en F1. J'ai bien entendu parler de Julian Palmer, mais qui lui aussi a tout gâché, et s'est montré également sous son mauvais jour. Alors il était dans les points, et là, il avait un rythme intéressant pour une Renault en plus, hein, c'est ça qui est fort. Et tout à coup, il est parti en tête à queue dans le virage rapide, le virage rapide qui se situe à la fin du secteur 1. Là, il a dépassé les limites de la piste, hein, je peux vous le dire, puisque voilà, le tête à queue était là. Et en plus, après, c'est surtout la réaction après le tête à queue. Il revient en piste sans regarder, hein, véritablement. Il n'a pas regardé si ça arrivait sur sa gauche. Et du coup, il est revenu en piste de manière très dangereuse, alors qu'il y avait d'autres pilotes qui arrivaient. Donc à plus de 200 à peu près dans la trajectoire, et voilà, et Palmer se trouvait dans la trajectoire, ça aurait pu faire un accident ça aussi. Donc bon, c'est pas très intelligent de la part de Julian Palmer, que ce soit dans le tête à queue ou dans la façon dont il a regagné la piste. Ça montre un manque d'expérience, un manque de talent également, comme depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, il est dominé par Kevin Magnussen, et là c'était l'occasion de se montrer, de saisir une occasion de points, et non, il l'a pas fait. C'est là qu'on voit la différence entre différents pilotes, parce qu'avec ce genre de monoplace, il y a très peu d'occasions, hein, de marquer des points, et là il s'en était une. Et quand on voit les pilotes qui les saisissent, comme Kevin Magnussen plus tôt dans la saison, et il y en a d'autres qui les saisissent pas, comme Julian Palmer, et là ça creuse encore plus la différence entre les deux. Et Julian Palmer, ça va être dur de conserver son baquet pour la saison prochaine, je pense, hein. Sauf si il renverse la situation et qu'il saisit occasion sur occasion et qu'il domine Magnussen. Mais ça, je n'y crois pas trop. Enfin, ça serait fort de sa part, ça c'est sûr. Et en plus, après, il a dit le truc habituel, ce dont je vous parlais il y a quelques semaines. Souvenez-vous, c'est-à-dire que quand un pilote part en tête à queue et qu'il dit ensuite, en interview d'après-course, oh, il faut voir ce qui a cloché, on va regarder avec l'écurie ce qui s'est passé. Généralement, c'est que c'est le pilote qui a fait une erreur, mais qui veut pas le dire devant les médias parce qu'il veut pas admettre une faiblesse. Mais voilà, enfin, Quelque part, il l'admet à demi-mot en disant ça. Voilà, c'était une erreur de sa part, il a perdu le contrôle de sa monoplace. Et voilà, il n'a pas fait attention à la dégradation des gommes, sûrement. Parce qu'il a dit, ce qu'il a dit en fait, c'est pour expliquer son tête-à-queue. Enfin, il n'a pas su l'expliquer du coup, mais il a dit, ben, comme à tous les tours, j'ai passé le virage exactement de la même façon qu'à tous les tours. Et oui, mais avec la dégradation des pneus, la monoplace qui devient plus légère, il faut pas passer peut-être le virage de la même façon à tous les tours. Et avec la gomme qui se dépose également sur la piste, enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Ouais, et s'il les prend pas en compte, bon, c'est, ça donne ce que ça a donné. Et pour terminer ce podcast, parlons de l'incident qui a touché Jenson Button et qui a touché le règlement de la F1 également. Il a eu un problème un peu avant la mi-course, je crois, hein, avant la mi-course, de pédale de frein, puisque sa pédale de frein à Button allait jusqu'au fond. Et je crois rester enfoncé au fond, quoi, tout simplement. Donc un gros problème, hein, pour le pilote britannique. Un problème de sécurité, évident. Et il a reçu une pénalité car il y a eu une communication radio qui lui a dit, je crois, qui lui a donné un conseil. Et il l'a suivi et du coup, ben, pénalité. Pénalité pour Button pour ça. Communication radio interdite. Ben oui, là Button, il a ironisé parce qu'à la radio, il a dit, ah vous, alors comme ça, il y a la pédale qui reste au fond et c'est interdit de me dire quelque chose là-dessus. Enfin, ce n'est pas considéré comme un souci de sécurité. Intéressant, il a dit Button. En effet, je suis d'accord que parce que là, la sécurité était vraiment ben présente. Enfin, le problème de sécurité était présent. Donc, il y avait lieu d'autoriser ça. Et je l'avais déjà dit la semaine dernière. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé. Et ça devient de plus en plus ridicule. Ça devient de plus en plus ridicule parce que là. Imaginons que Button, on le laisse faire, on lui donne pas l'instruction, et il arrive un accident, parce que plus de frein, parce que voilà. C'est assez ridicule. Et du coup, en marge du Grand Prix d'Allemagne, il y a eu un retournement de situation. Qu'est-ce qu'a décidé la FIA selon vous? Alors vous, normalement, si on suit la logique de la FIA, ils vont se dire, bah, soit ils vont durcir encore le règlement, soit ils vont l'aménager un petit peu, mais ils vont conserver les interdictions radio. Ben, non. Non. Ils ont décidé, tenez-vous bien, là si vous n'êtes pas au courant, tenez-vous bien, asseyez-vous si vous n'êtes pas assis, je pense que ça va vous faire un choc. La FIA a décidé d'autoriser toutes les communications radio. C'est-à-dire ils ont rayé le règlement l'année dernière à Spa, ils mettent un règlement en place, ils se disent, ah ben voilà, pour que les pilotes soient plus considérés comme étant assistés par les ingénieurs, comme le pensaient certains hurluberlus, enfin beaucoup de fans entre guillemets de la Formule 1. Il ferait mieux de se taire des fois. Eh bien, on va limiter les communications radio. D'abord les limiter un petit peu et ensuite, en 2016, les limiter un peu plus complètement. Et là, du coup, on s'est rendu compte que finalement, ça n'avait aucune conséquence. Comme je l'avais dit l'année dernière, souvenez-vous, j'avais dit que c'était un règlement pas du tout nécessaire à la course parce que dans les faits, les pilotes ne sont pas assistés et pilotent eux-mêmes, même si, voilà, il y a des conseils des ingénieurs qui étaient un peu, c'est vrai, peut-être un peu abusés, mais bon, les pilotes savent piloter, ils n'ont pas besoin forcément des conseils des ingénieurs, on l'a vu, et ça change pas grand-chose finalement qu'il y ait plus ces conseils. Alors, s'il y a une exception, du coup, à cette autorisation des communications radio, c'est pour le tour de formation, pour que les pilotes fassent le départ eux-mêmes. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais voilà, sinon tout est autorisé de nouveau, voilà. Donc ça prouve bien que c'était vraiment tout pourri ce règlement. C'est bien ce que je disais, que ça servait à rien et que c'est pas ça qui allait nous offrir plus de belles courses, au contraire, parce que les pilotes ils devaient, on va dire, avoir leur concentration divisée un peu trop entre le pilotage et les trucs au volant à faire, des trucs d'ingénieur quoi, parce que ils n'ont pas à connaître. Tous ces trucs-là, hein, eux, ils doivent savoir piloter, maîtriser deux, trois réglages évidemment sur la répartition de freins ou d'autres choses, le régime moteur, mais bon, après, mis à part ça, leur demander de mettre tel truc en récupération d'énergie, de faire attention et tout, bon, ouais, c'était un peu trop exagéré. Et là, heureusement, ben heureusement, finalement, on va se satisfaire de ça, le règlement a été rayé et les communications radio sont ouvertes, du coup, les pilotes vont pouvoir se concentrer sur le pilotage. et tant mieux. Voilà, la FIA, ça c'est un exemple, et du coup, j'espère que ça va servir de leçon à la FIA, c'est-à-dire que suivre, on va dire, ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux comme critique, des critiques un peu, ben, pas forcément fondées en plus, et d'agir en ce sens juste par pure politique, eh bien, ça change rien, parce que il y a toujours des critiques ici et là pour d'autres trucs, et c'est pas ça qui va augmenter l'intérêt pour la F1, non. Bien au contraire, ça montre... Ça montre juste de la politique, ça montre, ça agit pas pour les pilotes et du coup, ben, ça fait n'importe quoi. C'est pas dans le sens de la course et c'est ridicule. Et en plus, on montre aux gens que la F1 a des défauts qui ne sont pas vraiment des défauts en plus. Donc, alors qu'il faudrait plutôt montrer ce qui est positif. Voilà. J'espère que la F1 va aller dans ce sens, même si. La F1 va un peu dans tous les sens en ce moment là et au niveau du règlement et je pense qu'ils savent pas trop où aller, c'est un peu triste. Bon, heureusement il y a 2017 qui va arriver avec ces nouvelles monoplaces, ça devrait peut-être donner un regain d'intérêt pour pas mal de personnes. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous au prochain, la semaine prochaine et en attendant, vivons notre passion, à bientôt.